Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Et ce matin, je voudrais partager quelques réflexions sur le thème de la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est un thème que l'on évoque tous les dimanches, mais pas longtemps. C'est très court. C'est un thème qui revient souvent, mais c'est un thème qu'on ne creuse pas suffisamment, je pense. Alors que dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 42, c'est les débuts de l'Église et on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans ces débuts, l'Église de Jésus reposait sur quatre piliers qui, je pense, sont encore valables pour nous tous aujourd'hui. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène, et la prière. Quatre piliers. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages que Dieu veut nous communiquer dans la Bible à propos de la Sainte Cène. Il y a beaucoup de choses dans la Sainte Cène. Dieu nous parle beaucoup à partir de ce thème-là, et c'est la raison pour laquelle ce matin je voudrais qu'on s'attarde un petit peu, parce qu'on n'aura jamais fini de tout dire, mais qu'on s'attarde un petit peu sur les messages que contient la Sainte Cène. Alors la Sainte Cène, pour nous qui sommes chrétiens, ça représente bien des choses, et notamment la communion. Quand on partage la Sainte Cène, on est en communion avec l'Esprit Saint, on est en communion entre nous, frères et sœurs. Donc la communion, la commémoration. Jésus lui-même a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc quand nous partageons la Sainte Cène, nous obéissons à ce commandement de Jésus. Quand nous mangeons le pain brisé, c'est le corps brisé de Jésus sur la croix. Le pain représente la mort. Et le sang, c'est le vin. Quand nous buvons le vin, c'est le sang de notre Seigneur Jésus. Et puis, c'est aussi un moment de repentance. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous nous repentons. Nous nous présentons devant Dieu, nous lui présentons nos cœurs, nous lui demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos attitudes. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Mais il n'est pas que mort. Jésus est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice de Jésus à la croix, il est validé par Dieu le Père. Si Jésus était mort en vain, vous croyez que Dieu l'aurait ressuscité? Non. Dieu n'aurait jamais fait ça. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu a agréé le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés. Et quand nous prenons la Sainte Cène, voilà ce que nous faisons. Nous demandons pardon à Jésus. Nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Mais à travers la lecture de la Bible, on se rend compte qu'il y a d'autres messages que la communion, que la commémoration, que le pardon au travers de la Sainte Cène. Il y a bien d'autres choses. Et ce matin, je voudrais parler de deux choses en particulier, deux volontés de Dieu contenues dans les messages de la Sainte Cène. Le premier, c'est la vie que Dieu veut nous communiquer à travers la Sainte Cène. Et la deuxième chose, c'est la puissance. Il y a une puissance dans la Sainte Cène, une puissance que Dieu veut nous communiquer, et c'est la volonté de Dieu que de nous communiquer cette vie et cette puissance. Alors, tout d'abord à propos de la vie, nous allons partager deux lectures. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Jean 14, 6. Donc c'est Jésus qui parle, et c'est Jésus qui parle pendant la Sainte Cène. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous connaissez par cœur. Ça s'est passé pendant la Sainte Cène. Ça, on ne le sait pas toujours. Cette phrase, Jésus l'a prononcée pendant qu'il était avec ses disciples lors du dernier repas. Une autre lecture, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 24 à 26. Jean, chapitre 5, versets 24 à 26. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Amen. la vie dans la Sainte-Seine. Normalement, une fois que je vous aurai parlé de ça, vous devriez avoir un cœur en joie, vous devriez avoir un cœur réjoui. La vie que contient la Sainte-Seine. Une vie nous est communiquée par la Sainte-Seine, pas n'importe quelle vie et pas par n'importe qui. Dieu nous communique sa vie par la Sainte-Seine. Je ne sais pas, pour vous, pour moi, le concept de vie éternelle, pendant assez longtemps, ça a été l'idée que, une fois que j'étais mort, une fois que je serai mort, j'entrerai dans la vie éternelle. Est-ce que d'autres pensent comme moi? Ou comme j'ai pu penser? On est d'accord? Je meurs, et au moment où je meurs, je rentre dans la vie éternelle. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Pour moi, ça veut dire infini. Ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est l'idée que moi, je me fais de la vie éternelle, plutôt que je m'en faisais. On a lu deux versets qui nous disent, le premier, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. » Il dit « Je suis la vie. » Nous avons lu aussi « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Celui qui écoute et qui croit a la vie éternelle. Les versets sont conjugués au présent. Amen. Celui qui écoute et qui croit, il a la vie éternelle. Il n'est pas dit, il aura la vie éternelle le jour où il mourra. Celui qui écoute et qui croit la parole de Dieu a la vie éternelle. Nous sommes physiquement présents sur terre. Nous avons les deux pieds bien collés au sol. Et pourtant, nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle. N'attendez pas votre mort. Vous êtes déjà entrés dans la vie éternelle, vous qui avez écouté et qui avez cru. Et dans le verset, il est même dit, celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, mais il est passé de la mort à la vie. C'est même déjà fait. Au moment présent, vous êtes dans la vie éternelle, mais vous y êtes déjà rentrés. Ça s'est déjà passé. Je ne sais pas si vous aviez conscience de ça. Moi, je n'ai pas toujours eu conscience de ça. Mais quand on a conscience de ça, qu'on est déjà dans la vie éternelle, je ne sais pas si c'est le cas, mais je vous disais tout à l'heure que j'espère que votre cœur est en joie. J'espère qu'une fois que vous avez entendu ça, votre cœur est en joie. Amen. Alors, c'est quoi la vie éternelle? Maintenant qu'on sait quand ça commence et quand ça finit, mais peut-être ça a toujours été. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il a toujours été. Sa vie a toujours été. Nous sommes dans sa vie. 1 Thessaloniciens 5, 23. On se pose la question de ce qu'est la vie éternelle. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est composé de trois dimensions. Dans cet ordre, comme le dit l'Écriture, l'esprit, l'âme et le corps. Les mots grecs, vous savez que la Bible, enfin en tout cas le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc les mots grecs utilisés ici pour l'esprit c'est pneuma, pour l'âme c'est psyché, pour le corps c'est soma. Pneuma, psyché, soma. On a un premier niveau de vie qui est la vie du corps. Le corps humain. Et en grec, c'est soma. C'est notre corps humain dans sa réalité, visible, charnel. On peut le toucher. Il a une vie temporelle, il a une vie matérielle. C'est notre corps. Et la vie du corps, selon la Bible, c'est la vie bios. Toujours du mot grec bios, duquel est venue biologie, par exemple. Et c'est une dimension de vie que tout être humain peut connaître. C'est à la portée de tout le monde. Quand Dieu nous donne la vie par le corps, soma, il nous donne l'expérience de la vie bios. Je nais, je respire, je vois, je sens, je touche, je goûte. Je suis vivant par mon corps. Mais c'est un premier niveau de vie. C'est le plus facile. C'est le plus facile à atteindre parce que c'est le premier et parce qu'il est inné. Nous sommes nés avec un corps et avec ce corps, Dieu nous a donné la vie bios. Et d'ailleurs, Dans la parabole du semeur, évangile de Luc, chapitre 8, verset 14, il est question des plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Et ici, dans cette parabole, la vie, c'est le mot bios. Les plaisirs de la vie, bios. Donc, c'est le manger, le boire, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier niveau de vie auquel on peut prétendre. Et d'ailleurs, on y prétend tellement qu'on l'obtient tous. Ensuite, il y a un deuxième niveau de vie qui est celui de l'âme. Et ici, dans le verset que nous avons lu, c'est l'âme psyché. Psyché, là aussi, vous connaissez, c'est la racine de plusieurs mots qu'on utilise aujourd'hui, psychologie, psychiatrie, etc. Et l'âme, à la différence du corps, c'est une dimension qui est intérieure. Elle ne se voit pas, elle ne se touche pas, elle n'a pas d'existence matérielle. Mais pourtant, elle est bien réelle. L'âme est réelle. Et il se trouve que Dieu a donné une âme à chaque homme. Chaque homme est né avec un corps et avec une âme. L'âme, c'est quoi ? L'âme, c'est ce qui contient notre volonté. C'est ce qui contient nos émotions, nos sentiments. C'est l'âme qui fait que nous sommes des êtres humains vivants. Sans âme, nous aurions un corps, mais un corps inerte. C'est parce que nous avons une âme avec une volonté que nous pouvons nous lever, aller faire des choses, travailler, aller à l'église. C'est parce que nous avons une âme. Dans Matthieu 16, 25, Jésus dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Ici, le mot grec utilisé, c'est « psyché ». Car celui qui voudra sauver sa vie psyché la perdra. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui perdra son âme à cause de moi, celui qui perdra sa volonté, celui qui perdra ses sentiments à cause de moi, il la retrouvera. Il retrouvera quoi ? Il retrouvera la volonté et il retrouvera les sentiments qui sont dans l'esprit de Dieu, qui sont dans la vie de Dieu. Amen. Tant que mon âme garde le contrôle, tant que mon âme garde le pouvoir sur mon corps, tant qu'elle n'est pas soumise, je suis un animal. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce qui me différencie d'un animal, c'est que j'ai une volonté et que je suis soumis à Dieu. Et quand je suis soumis à Dieu, je peux recevoir des choses de l'Esprit de Dieu. Tant que je suis un animal, je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc pour avoir une âme renouvelée, c'est ce que nous dit Jésus, pour avoir une âme renouvelée par l'Esprit, nous devons abandonner notre propre volonté. Sans cela, ce n'est pas possible. Une fois que j'ai dépouillé mon âme de ma volonté, lui vient me la remplir avec sa volonté. Et là, j'ai une âme renouvelée. Et là, je suis né de nouveau. Tant que je n'ai pas fait cette expérience, tant que je n'ai pas abandonné, tant que je n'ai pas capitulé, je ne suis pas né de nouveau. C'est pour ça que quelqu'un qui est né de nouveau, on le voit. Parce que c'est l'âme de Jésus qui est en lui. C'est la volonté, les sentiments de Jésus-Christ qui sont en lui. Amen. 1 Corinthiens 2, 14, je le disais, 1 Corinthiens 2, 14 nous dit, mais l'homme animal, et l'homme animal c'est psyché, dans la version grecque de ce texte c'est psyché, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour une vie transformée, vous devez abandonner. Vous devez abandonner votre volonté, vous devez abandonner vos sentiments, vous devez abandonner le contrôle à l'Esprit de Dieu. Sans cela, ce n'est pas possible. Troisième niveau de vie, c'est celui de l'esprit. On a vu le corps, soma, on a vu l'âme, psyché. Et le troisième niveau de vie, c'est celui de l'esprit, pneuma. C'est le niveau le plus élevé. C'est le niveau le plus élevé. Pneuma, en grec, signifie esprit, mais aussi souffle ou vent. Et donc, le pneuma, c'est globalement l'esprit qu'on va retrouver, c'est l'esprit de Dieu. C'est aussi l'esprit qu'on va retrouver en nous, l'esprit de Dieu lorsqu'il est en nous. C'est aussi l'esprit, le sens du mot pneuma, c'est aussi esprit au sens de l'esprit des anges et même des démons. On utilise le mot pneuma dans la Bible pour évoquer l'esprit des démons. Donc c'est plus large que l'esprit de Dieu. Et c'est la troisième dimension de l'être humain, après le corps et l'âme. C'est la dimension la plus élevée. L'esprit, c'est la dimension la plus élevée de l'être humain. Et Jean 6, 63 nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit pneuma qui vivifie. Et ici, la vie, en grec, ce n'est ni bios, ni psyché, c'est zoé. C'est la vie zoé. C'est une autre dimension de vie. Et en l'occurrence, c'est la vie qui vient de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie zoé. En français, on dit la vie, quand on dit la vie pour tout. La vie de si, la vie du corps, la vie de l'âme, la vie de l'esprit, c'est la vie. En grec, c'est différent. Parce qu'il y a une sensibilité différente qui exprime des choses différentes. Voilà pourquoi la vie bios, c'est la vie du corps, psyché pour l'âme, zoé, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, pneuma, et vie, zoé, esprit et vie. Plusieurs versets parlent de cette vie, la vie zoé. Le plus connu, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie zoé éternelle. Donc, c'est un verset qu'on connaît par cœur, qu'on tout le monde connaît. Mais est-ce qu'on a, quand on prononce ces mots, est-ce qu'on a bien saisi le sens? Qu'on a reçu cette vie de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Jean 5,12, la Bible dit encore... 1 Jean 5,12 Celui qui a le Fils a la vie. Zoé. Celui qui a le Fils a la vie. Zoé, la vie éternelle, la vie de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Zoé. Donc, celui qui n'a pas accepté Jésus dans son cœur n'a pas la vie éternelle. Ça passe par là. La vie de l'Esprit. Son corps est en vie, son âme est en vie, mais son esprit est séparé de Dieu. Son esprit est éloigné de Dieu, son esprit est coupé de Dieu. Donc la vie éternelle nous est communiquée par l'esprit. Quand Jésus dit, nous l'avons lu tout à l'heure, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est la vie zoé. Jésus n'a pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie du corps » ou la vie de l'âme, il a dit « Je suis la vie de l'esprit ». Il est la vie de l'esprit. Amen. Alors cette vie zoé, on va s'y intéresser un peu plus. Dans Jean 5,26, on l'a lu tout à l'heure. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et ici, évidemment, c'est encore de la vie zoé qu'il s'agit. Et c'est là que l'on comprend que cette vie-là vient de Dieu, puisque la Bible dit « car comme le Père a la vie en lui-même ». Comme le Père a zoé en lui-même. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui nous vient directement. Et donc cette vie qui est en Dieu, c'est la même qui est en Christ. Et c'est la même qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre vie éternelle. La vraie vie, c'est celle-là. C'est la vie de l'Esprit. C'est la vie qui nous vient de Dieu. C'est la force, c'est la puissance, c'est la nature même de Dieu. Zoé, la vie Zoé, la vie éternelle, c'est la nature même de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu en nous. C'est Emmanuel. C'est une dimension de vie unique, une expérience de vie unique, surnaturelle. Je disais tout à l'heure que tous les hommes ont cette expérience de vie de corps, soma, bios. L'âme, tout le monde en a une, mais l'âme soumise à Dieu, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais la vie de l'esprit, l'esprit de Dieu en toi, tous les hommes ne connaissent pas cette expérience. La vie de l'esprit est éternelle. Est-ce que la vie du corps est éternelle? Est-ce que la vie de l'âme est éternelle? L'âme et le corps sont-ils éternels? Que nous dit la Bible? Dans Genèse 3,19, à propos du corps, l'Éternel Dieu dit à l'homme, « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc le corps, c'est très simple. Tu meurs, ton corps est enterré, et ton corps petit à petit disparaît. Il redevient poussière. C'est ce que dit Dieu, et c'est ce qui est. Mais pour ce qui est de l'âme, est-ce que l'âme peut mourir? Est-ce que notre âme peut mourir? Que dit la Bible? Quand on ne sait pas une chose, on ne va pas consulter des voyants ou je ne sais pas qui. On a une Bible, Dieu nous a donné une parole. Donc quand on se pose une question, c'est important de savoir si l'âme peut mourir ou pas, non? C'est quand même une question très importante. Donc quand on se pose des questions comme ça, on lit la Bible, on lit la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, Ézéchiel 18, 4, Ézéchiel nous révèle ce qu'il a reçu de Dieu et il dit « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Toutes les âmes appartiennent à Dieu et Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. » Et c'est confirmé un peu plus loin, toujours dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, où il est répété « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Il y a une âme qui mourra ou qui peut mourir puisque Dieu est maître de cela. Il y a une âme qui peut mourir, c'est l'âme qui pêche. Jésus a confirmé tout cela puisqu'il a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 28, Matthieu 10, 28, « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus lui-même nous dit que l'âme peut mourir. Qui peut faire mourir l'âme? C'est Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que certaines âmes seront jetées dans l'étang de feu. C'est ce qui est appelé la deuxième mort. Donc, l'âme peut mourir. Le corps peut mourir. Le corps meurt. L'âme peut mourir. Ce n'est pas une obligation. Dieu peut garder votre âme en vie éternellement. Et l'esprit ne meurt pas. Par contre, il peut être séparé de Dieu. L'esprit peut être coupé de Dieu. Mais celui qui a la vie de Dieu en lui, celui qui a la vie Zoé en lui, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, celui-là garde un esprit connecté à Dieu. Même si son corps meurt, même si son âme qui peut vivre est toujours, a toujours, et son esprit aussi, alors la vie Zoé lui donnera cette puissance éternelle qui vient de Dieu et qui ne vient que de Dieu. Dieu qui donne la vie est éternelle. C'est pourquoi sa vie est éternelle. Parfois, donc, on pense que la vie éternelle, c'est une vie qui a une durée, qui commence à un moment donné et qui finit jamais. On pense que c'est une notion de durée, mais ce n'est pas... C'est une notion de durée, mais ce n'est pas qu'une notion de durée. La vie est éternelle parce qu'elle vient de l'éternel. La vie est éternelle parce qu'elle vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous l'avons maintenant, et c'est pourquoi nous y sommes déjà entrés. Il n'y a pas de début, puisque Dieu est l'alpha et l'oméga. Elle a toujours existé. Un jour, nous sommes rentrés dedans, mais elle a toujours existé. La vie éternelle, c'est la vie qui vient de Dieu. C'est la nature de Dieu, car il est éternel, sa vie est éternelle. Amen. Si on représentait l'être humain par une pyramide, on mettrait le corps en bas, la vie du corps en bas, ce serait le premier niveau, le niveau le plus bas, puis l'âme, puis l'esprit en haut. C'est comme ça que nous le présente la Bible, dans cet ordre, esprit, âme et corps. Ça veut dire que quand tu reçois l'esprit de Dieu, quand tu reçois la vie Zoé, tu la reçois par la dimension la plus élevée, celle qui est connectée à Dieu, c'est-à-dire ton esprit. Mais elle ne s'arrête pas là. Et on sait que la vie de Dieu, la vie Zoé, impacte notre corps jusque dans sa dimension physique, jusque dans sa dimension humaine. On reçoit cette vie par l'esprit. Mais ensuite, elle ruisselle, elle tombe en cascade, elle bénit notre âme. Elle bénit notre âme, puis elle bénit notre corps. C'est la raison pour laquelle quand une personne donne sa vie à Jésus, une personne née de nouveau, on la voit se transformer jusque dans son apparence. Mais la transformation, quand vous voyez la finalité dans l'apparence, la transformation a déjà commencé. Où ? Elle a commencé par l'esprit, tout en haut, puis l'âme, puis le corps. Jean 5, 24, on l'a lu tout à l'heure, nous dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Il y a deux conditions pour recevoir la vie Zoé. Écouter et croire. Les deux sont indispensables. Écouter, pour écouter, on a besoin de quelqu'un. Il faut que quelqu'un nous parle. Ça peut être Dieu, ça peut être l'Esprit de Dieu, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être un prédicateur, ça peut être dans une église. Mais il faut que quelqu'un te parle et que tu entendes. Là, ce matin, vous entendez, vous écoutez, vous entendez ce qui se dit, vous entendez la parole de Dieu. Donc vous remplissez la première condition, vous écoutez. Il y a une deuxième condition qui est de croire. Et ça, personne ne peut le faire pour vous. On parlait de volonté tout à l'heure. À un moment donné, il faut avoir cette volonté de croire. Il faut avoir cette volonté de croire. Vous entendez, ça ne suffit pas. Il faut aussi croire pour remplir la deuxième condition. Je ne sais pas si tu entends ce message et si tu crois, mais ce que je sais, c'est que si tu acceptes de croire, alors l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, la vie Zoé, va venir, va toucher ton esprit. Et en cascade, elle va bénir ton âme, elle va bénir ton corps, et elle va bénir tous les compartiments de ta vie. Elle va bénir ton mariage, elle va bénir ton couple, elle va bénir ta famille, elle va bénir ta maison, elle va bénir ton travail, elle va bénir ta santé, elle va bénir tes problèmes, elle va bénir tous les compartiments de ta vie, tous, un par un. Tout est renouvelé par la puissance de Dieu en nous, par la vie de Dieu en nous. Alors dis à ton cœur, réjouis-toi, car tu as reçu la vie. Il y a une deuxième chose dont je voulais parler dans la Sainte Cène, c'est la puissance que contient la Sainte Cène. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, 26 à 30. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Comment bénéficier de la vie contenue dans ce repas? C'est très simple, il faut manger le pain et le vin, qui ne sont pas que du pain et que du vin, puisqu'on a dit que le pain, c'est le corps rompu de Christ pour nous, et le vin, c'est le sang de Christ qui a coulé pour nous. Et on a dit que nous commémorons, comme nous l'a demandé Jésus, nous commémorons sa mort. Quand tu prends ce pain, quand tu prends ce vin, et que tu te souviens que Jésus est mort à la croix pour toi, alors il se passe quelque chose. Ce n'est plus seulement du pain et du vin. C'est le corps et le sang de Jésus. Et tout est différent. Dans la semaine, tu manges du pain, tu bois du vin ou du jus de raisin. Ce sont des aliments communs. Ce sont des aliments de tous les jours. Mais tu ne les manges pas en pensant à Jésus, en te rappelant que Jésus est mort à la croix. Donc ce pain et ce vin ne produisent aucun effet. Mais il y a une puissance dans la Sainte Cène. Quand tu prends ce pain et quand tu bois ce vin, en te rappelant que Jésus est mort à la croix pour toi, alors il y a une puissance qui est libérée. Déjà, tu prends position. Quand tu prends la Sainte Cène, tu prends position. Tu t'engages. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je me souviens que tu es mort à la croix pour moi. Je me souviens que tu as pris mes péchés. Je me souviens que tu l'as fait pour moi. Je me souviens que tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait pour moi. Donc, quand je prends la Sainte Cène, je me souviens, j'annonce la croix, je prêche la croix. Je me souviens de la croix. Et je crois encore. Je crois que Jésus est ressuscité et je crois qu'il va revenir. C'est tout ça la Sainte Cène. Et d'ailleurs, on l'a lu, c'est un repas jusqu'à ce qu'il vienne. Donc quand l'Église prend ce repas en attendant l'Époux qui va revenir. Donc je m'engage. Et donc le texte qu'on a lu nous donne deux avertissements. Que chacun s'éprouve soi-même et celui qui ne discerne pas le corps. Que chacun s'éprouve soi-même. Si tu viens devant Dieu, si tu participes à ce repas, si tu es devant ce repas, tu dois te repentir si tu as péché. C'est ce que Dieu te demande. Prendre la Sainte Cène en demeurant dans le péché ou avec une situation de péché qui n'est pas réglée, amène, on l'a lu, un jugement. C'est une réalité, puisque la Bible nous le dit. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que la Sainte Cène, c'est le repas des saints. C'est le repas qui est réservé aux saints. Si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole, il vaut mieux t'abstenir que participer à ce repas. Que chacun s'éprouve soi-même, ou alors que chacun s'examine soi-même. C'est un engagement, je le disais, parce que personne n'est obligé de prendre ce repas. Dieu n'oblige personne. Dieu n'a jamais forcé personne à quoi que ce soit, encore moins à participer à ce repas. Si tu participes à ce repas, tu le fais de façon volontaire. Alors la Bible t'avertit et Dieu te dit, éprouve-toi, examine-toi. Il est question de dignité ou d'indignité. Nous sommes appelés à participer à ce repas dignement, avec dignité. Autre point, autre avertissement, que celui qui ne discerne pas son corps, celui qui ne discerne pas le corps, celui qui ne discerne pas, celui qui ne comprend pas, ne doit pas participer à ce repas. Ce n'est pas un repas de superstition, ce n'est pas un repas d'idolâtrie, ce n'est pas un repas magique, ce n'est rien de tout ça. La Sainte Cène, ça n'a rien à voir avec tout ça. Celui qui croit que même s'il a une vie éloignée de Dieu, une vie non conforme, qu'il va venir manger un bout de pain et boire un peu de vin et que ça va lui amener une bénédiction dans sa vie, il se trompe. C'est pourquoi la Bible nous invite à discerner le corps. Si tu ne discernes pas le corps, tu ne prends pas le repas. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, ne le fais pas. Le texte qu'on a lu nous dit qu'à Corinthe, beaucoup prenaient la Sainte Cène sans comprendre qu'il y avait beaucoup de maladies et beaucoup d'infirmités. Mais aujourd'hui encore, il y a des personnes qui prennent le pain et qui prennent le vin sans comprendre. Et alors, il y a des maladies et il y a des infirmités physiques. Mais il y a aussi des maladies et des infirmités spirituelles. Mais il y a aussi des maladies et des infirmités dans les pensées. Et il y a aussi des maladies et des infirmités dans les comportements. Si vous participez à ce repas sans savoir ce que vous faites, ou si vous le faites en toute conscience, que vous n'avez pas une vie d'obéissance à Dieu, vous amenez sur vous un jugement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, on vient de le lire. Ne le faites pas. Ne faites pas cela. La Bible vous appelle à prendre ce repas avec dignité. Dignité. La bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que personne ici n'est digne. Personne n'est digne. En réalité, personne n'est digne de prendre ce pain et ce vin. Absolument personne. C'est pourquoi quand tu prends ce pain et ce vin, discerne les choses, examine-toi, éprouve-toi, cherche ce qui ne va pas en toi, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas en toi, dans ta vie, dans ta façon d'être, dans ta relation avec les autres. C'est obligé, il n'y en a qu'un qui est digne, c'est Jésus-Christ. Nous autres, nous ne sommes pas dignes de ce repas, pourtant il nous appelle à y participer. Mais il nous dit aussi, examine-toi, éprouve-toi, discerne mon corps, repense à tout ça. Quand tu as dans tes mains le pain et le vin, regarde le pain et le vin. C'est le corps de Jésus qui a été rompu pour toi. Le vin, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Regarde-le comme ça et tu vas comprendre. Sans même que tu aies à y penser, les mots vont sortir de ton esprit qui va demander pardon à Dieu. Qui va demander pardon à Jésus. Examine-toi, éprouve-toi, discerne le corps. Demande pardon à Dieu. Tu n'es pas obligé de prendre la Sainte Cène. Ne la prends pas sans réfléchir. N'attends pas que quelqu'un vienne avec le pain et le vin devant toi et te le tende comme ça. Prépare ton culte avant d'être venu. Réfléchis. Le culte, il ne commence pas quand tu passes la porte de l'église. Le culte, il a commencé avant. Un jour avant, deux jours avant, trois jours avant, je ne sais pas. Prépare ton culte, réfléchis, éprouve-toi, examine-toi, discerne le corps. Tous les jours, on prend du pain et du vin. Tous les jours. Ce sont des aliments tellement communs, tellement ordinaires. On en prend tous les jours. Ou du jus de raisin, pour ceux qui ne boivent pas de vin. Et ce sont des aliments tellement ordinaires que ceux qui servent à préparer la Sainte-Seine ici, c'est les mêmes. Ils n'ont pas été produits miraculeusement. C'est le pain qu'on a acheté à la boulangerie. Ce matin même, c'était du pain de mie, je crois. Vous voyez, il a été fabriqué à l'usine. Et le vin, il a été acheté aussi dans un supermarché. Le jus de raisin, c'est pareil. Et quand vous les consommez tous les jours, c'est des aliments qui sont plutôt neutres. Sauf le vin, il ne faut pas trop en abuser. Donc il faut en boire avec modération. Mais les médecins vous diront que si vous consommez tout ça avec modération, il n'y a pas de problème. Okay ? Donc quand vous venez à l'église, vous prenez le pain et le vin. Si vous prenez dignement, vous êtes béni. Si vous prenez indignement, vous attirez un jugement sur vous. Si je compare deux pièces de 1 euro et de 2 euros, je prends deux pièces, 1 euro, 2 euros, vous imaginez ? Donc c'est deux pièces différentes mais qui ont des ressemblances. Elles sont à la fois différentes mais à la fois elles se ressemblent. Elles ont une différence principale, c'est leur valeur. Il y a une pièce qui vaut 1, il y a une pièce qui vaut 2. Il y a une pièce, la banque elle a dit, elle a une puissance de 1 et il y a une autre pièce, la banque elle a dit, elle a une puissance de 2. Deux fois plus de puissance. Pourtant, ce sont deux pièces qui se ressemblent. Elles ont été fabriquées avec le même métal, la même machine. C'est à peu près les mêmes motifs sur la pièce. Il y a un peu les couleurs qui changent, mais elles ont en tout cas beaucoup de similitudes. Mais il y a une autorité, la banque, qui ne leur a pas donné la même puissance. C'est la même chose pour ce pain et ce vin. C'est le pain du supermarché, c'est le vin du supermarché. Mais il y a un Dieu qui lui a donné une puissance particulière. À partir du moment où vous venez ici, vous prenez ce pain et ce vin, ce n'est pas n'importe quel pain, ce n'est pas n'importe quel vin. Il est validé par Dieu. Dieu a validé le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous devons donc nous approcher de ce pain et ce vin avec dignité. C'est par la foi que Dieu va faire de ce pain et ce vin un repas particulier, un repas qui peut te bénir ou un repas qui peut attirer un jugement sur toi. N'oublions pas que c'est à cause de Jésus que nous prenons ce repas. Si Jésus n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas de repas. Si son corps n'avait pas été brisé, si son sang n'avait pas coulé, il n'y aurait pas de repas. Nous sommes là par sa grâce. Si nous sommes présents dans ce lieu, c'est par sa grâce. Si nous pouvons nous approcher de repas, c'est par sa grâce et que par sa grâce. C'est pourquoi nous sommes appelés à prendre ce repas avec humilité. Je ne mérite pas ce repas. Je ne prends pas part à ce repas sur la base de mon mérite, sur la base de ce que je suis ou ce que je semble être aux yeux des hommes, sur la base de mon rang social, sur la base de mon argent, sur la base de choses humaines, mais je suis justifié par Dieu. Je peux m'approcher de ce repas parce que Dieu peut me rendre digne. Si je peux prendre ce pain et si je peux prendre ce vin, c'est parce que Dieu peut me rendre digne. Et c'est vrai que la parole nous dit que si nous prenons ce repas indignement, nous serons frappés. Mais il y a une possibilité que Dieu nous donne de nous rendre dignes. À partir du moment où nous lui demandons, à partir du moment où nous nous repentons. Quand je comprends ça, quand je comprends que ce pain et ce vin, je ne le mérite pas, quand je l'accepte, je chasse l'orgueil qui est dans mon cœur. Mon âme abandonne sa volonté. Et à ce moment-là, c'est la volonté de Jésus qui remplit mon âme. Amen. Et je suis rendu digne. Et ça, c'est possible parce que Dieu m'a communiqué sa vie. Sans la vie de Dieu communiquée à mon esprit, ça n'aurait pas été possible. Donc il y a une possibilité encore que nous soyons dignes, dimanche après dimanche, devant cette sainte scène. C'est d'accepter sa vie, c'est écouter et croire. C'est aussi de venir ici avec un esprit de repentance en nous examinant, en nous examinant, en nous éprouvant, en nous éprouvant et en discernant. Voilà l'approche que nous devons avoir pour recevoir la vie qui est contenue dans la Sainte-Seine, pour recevoir aussi la puissance qui est dans la Sainte-Seine. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous invite encore à méditer ces choses, à y repenser encore. La Sainte-Seine, on la prend tous les dimanches. Je le disais tout à l'heure, on la prend tous les dimanches, mais on n'en parle pas beaucoup. Et je vous invite vraiment à repenser et à méditer toutes ces choses que Dieu veut nous communiquer à propos de la Sainte-Seine. Que Dieu vous bénisse abondamment.